Donc, vous le savez, c'est officiellement parti et lancé pour les élections fédérales. Un blitz pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et ensuite, c'est jour de vote le 28 avril prochain. On va jaser du début de la course électorale avec Marc-André Leclerc, qui est analyste politique à LCN et au Journal de Québec, ainsi que directeur principal au cabinet des relations publiques chez National. Il est au bout du fil ce matin. Marc-André, bon lundi.
Bon lundi.
Merci d'être là ce matin pour commencer la semaine. Toujours un plaisir, cher ami.
Un plaisir également.
Marc-André, 0 à 10, donc échelle de 0 à 10, ton excitation que c'est finalement lancé ces élections fédérales?
12 sur 10.
Okay. Ah, 12 quand même!
Oh, yes!
Bon, ouais, mais je veux dire, moi, je parle de, tu sais, je commente la politique à l'année, dans des moments, ben là, 2025, c'est incroyable, là, tout ce qui arrive, mais tu sais, des fois, il y a des creux de vague, puis tu sais, les sujets sont peut-être, tu sais, c'est peut-être moins dans nos corps, mais tu sais, moi, j'ai passé 10 années à Ottawa, au fédéral, la politique fédérale, c'est ce que je connais le mieux. J'ai fait des campagnes fédérales sur le terrain, appuyé des candidats. Je l'ai fait dans le War Room à Ottawa. Je l'ai fait également dans l'avion de campagne en 2019 pour les conservateurs. Fait que c'est vraiment c'est extraordinaire là, pour quelqu'un comme moi qui aime la politique. Là.
Marc-André, dans le contexte actuel qu'on connaît, est-ce qu'on peut parler d'élections historiques pour le Canada?
Ben c'est sûr que le mot historique est beaucoup galvaudé, ouais. Là, ces temps-ci, là, tout est rendu historique. À chaque élection, on dit toujours que c'est l'élection la plus importante des importantes. Mais clairement, devant nous, devant les Canadiens, devant les Québécois, on a un choix qui est très important pour la suite des choses. Oui, tu sais, avec bon, qui va aller négocier avec Donald Trump à Washington, mais également sur comment on va reconfigurer notre économie, comment on va travailler à exploiter nos ressources. Donc oui, c'est important. Puis oui, je pense, dans ce contexte-ci, on peut utiliser le mot historique.
Marc-André, date fixée pour le 28 avril du côté des élections. Est-ce une bonne stratégie de Mark Carney? Je m'explique. Normalement, Donald Trump repousse toujours d'un mois ses tarifs. La prochaine date à suivre, 2 avril. Je regardais le calendrier. 5 mai que ça aurait donné pour le fameux report de tarifs. Alors, Carney a bien fait de le mettre le 28 avril et non le 5 mai si on avait été dans cette fameuse guerre de tarifs.
Oui, pour M. Carney, c'était la meilleure stratégie. Il était nommé chef. Après ça, il était nommé assermenté premier ministre. Une semaine plus tard, là, et 9 jours plus tard, il déclenche l'élection. C'était le meilleur scénario pour lui. En fait, c'était un peu le seul scénario qui était devant lui. Sinon, le Parlement, la prorogation aurait pris fin aujourd'hui. Il aurait fallu qu'il revienne au Parlement, écrire un discours du trône. C'est vraiment dans la séquence, là. On a eu la chance d'en discuter ensemble au cours des dernières semaines. C'était le meilleur scénario pour lui de faire une campagne le plus court, rapide, profiter de cet élan-là, puis on l'a vu dans les sondages, l'élan de fait de dire, ben, il y a un nouveau chef, un nouveau premier ministre, on prend des décisions rapidement pour se détacher, tenter de détacher le plus possible de l'ère Trudeau. Donc, c'était le meilleur scénario pour M. Carney.
Justement, Mark Carney pourrait, puis c'est une hypothèse qui a été soulevée par Mario Dumont, suspendre la campagne électorale. Puis je dis pourrait, ça reste une hypothèse qui a été soulevée par Mario Dumont. Je ne sais pas à quel point c'est possible, puis qu'est-ce que ce serait les implications de ça, mais c'est un peu ça ma question, justement. Qu'est-ce que ça fait si Mark Carney décide, exemple le 1er avril, de suspendre la campagne électorale pour gérer l'histoire de tarifs et tout ça? Est-ce que les autres partis doivent tout arrêter aussi? Puis est-ce que ça change la date des élections? Puis qu'est-ce que ça change?
Oui, mais je pense qu'il faut bien comprendre là, ce que Mario Dumont a dit hier là, sur les ondes d'LCN, c'est que c'est suspendre, là, tu peux pas suspendre la campagne, tu peux mettre ta campagne sur pause. Et c'est ça que Mario hier expliquait, c'est que tu peux mettre M. Carney à l'approche du 2 avril, et c'est sûr que c'est dans les livres là, des stratèges libéraux. Tu peux arriver puis dire le 1er avril au matin ou une fois que Monsieur Trump, là, le 2 avril, annonce ses tarifs, tu dis, moi, je prends une pause. Moi, Mark Carney, je prends une pause de campagne. Je range mon avion, je range les autobus et je vais revêtir, là, les habits du premier ministre pour 24, 48 heures pour annoncer la contre-attaque, pour annoncer, rencontrer les premiers ministres des provinces parce que présentement, là, tu sais, au fédéral, le gouvernement, lui, il est en dormance. Là. Il n'y a pas d'annonce. Je n'allais pas voir d'annonce aujourd'hui que le gouvernement fédéral donne un million à telle entreprise ou tout ça. Fait qu'ils, ils font le gouvernement, ils font vraiment là, le minimum. Le gouvernement est en dormance. Et là, est-ce qu'on pourrait réactiver ça? Et à partir de ce moment-là, mettons le 2 avril, où M. Carney dit, moi, je mets ma campagne sur pause, je laisse tomber un peu la partisanerie, le porte-à-porte, tout ça. Là, ça va être de voir comment les autres formations politiques également vont se comporter. Mais c'est une chose qui est certaine, là, c'est que le vote, peu importe ce que Donald Trump va faire le 2 avril, peu importe comment les partis politiques vont réagir face à cette menace-là de tarifs, on va aller aux urnes le 28 avril, puis on va, les gens qui veulent voter par anticipation vont pouvoir le faire là, la fin de semaine précédente, soit le long week-end de Pâques.
Hey Marc-André, je sais que la réponse pourrait être longue à ma prochaine question, mais pourrais-tu nous donner un grand défi par parti en début de course électorale?
Oui, ben avec plaisir. Ben dans le fond, c'est pour M. Carney, lui, c'est de faire oublier, hein, c'est de faire oublier les neuf dernières années, de dire c'est moi la nouveauté, c'est moi le changement. Oublier ce qui s'est passé dans le passé à partir de ce moment-là. Également, de garder cette espèce de coalition-là, parce que M. Carney, dans les sondages, présentement, il recrée un peu la coalition qui a permis à Justin Trudeau de remporter en 2015. Cependant, M. Carney, ben, on l'a vu dans les derniers jours, il va voler des idées à Pierre Poilievre, là. Fait qu'est-ce que les gens, là, qui étaient là en 2015 avec les libéraux, qui sont comme revenus au bercail, est-ce qu'on va vouloir rester avec M. Carney? Du côté des conservateurs, pour M. Poilievre, qui a mené dans les sondages, là, pendant plus de, je pense, 225 sondages consécutifs, à part jusqu'à tout récemment, ben, c'est de montrer que, un, c'est lui le vrai changement, que c'est pas les libéraux, que si vous voulez vraiment quelqu'un qui va changer la direction du Canada, c'est lui. Puis également, qui peut être capable de naviguer dans l'incertitude qu'on vit présentement avec les États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui ont un doute par rapport à ça, et ça va être à M. Poilievre de le faire, d'être rassurant. Ben pour le Bloc québécois, c'est d'être capable de s'immiscer là-dedans, hein, de dire, parce que tu sais, on l'a vu, il y a un grand mouvement de d'unité au niveau canadien. Donc, c'est capable pour le Bloc québécois de dire oui, on va négocier avec Trump, oui, il va avoir des temps difficiles avec les États-Unis, mais on a besoin d'avoir un bloc fort à Ottawa, justement, pour défendre les intérêts du Québec. Et c'est un peu à chaque élection, hein, tu sais, pourquoi le Bloc existe, pourquoi sont Ottawa, fait qu'ils sont un peu repris dans ce même, avec ce même enjeu-là. Et en terminant, ben, pour l'NPD, eux, c'est de survivre, hein. Leur objectif, c'est de survivre. On l'a vu. Peut-être le fait de revoir M. Singh dans les médias, d'avoir plus une couverture, peut-être ça va l'aider. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser à M. Singh au cours des derniers jours, qu'il doit vraiment se mordre les doigts de ne pas avoir déclenché une campagne l'automne dernier lorsque Justin Trudeau était encore chef du Parti libéral. Clairement, là, c'est une erreur stratégique du NPD. Ils auraient potentiellement fait des gains importants, mais là, tout ça est à la poubelle, tout ça est à recommencer. Et clairement, c'est une erreur stratégique de M. Singh.
Marc-André, pas le choix de te reparler de Donald Trump parce qu'il va être omniprésent dans cette campagne électorale-là. Il a mentionné « J'aimerais mieux négocier avec Mark Carney qu'avec Pierre Poilievre. Est-ce qu'il se prépare à faire une bonne vieille passe sa palette à Mark Carney le 2 avril prochain de retarder les tarifs pour que Carney passe pour un bon premier ministre? »
Ouais, ben là, ça va être à voir. La chose, bon, est-ce que M. Trump peut retarder les tarifs sûrement? Il l'a fait quoi, trois occasions?
Ça sera pas une surprise.
Ça sera pas une surprise. Bon, mais là, tu sais, encore dernièrement, le 2 avril, ça va être la journée de la délibération des Américains, là. J'aime vraiment, on beurre épais là-dessus. Est-ce qu'il peut le retarder toujours? Cependant, est-ce que M. Carney pourrait, mettons là, que ça continue comme ça, là, ce matin, on est le 24, on se rend jusqu'au 2 avril. Le 2 avril, là, c'est pas dans 100 ans. Là. C'est vraiment très, très proche. Le temps file. Sauf que ça va être peut-être difficile pour M. Carney d'en prendre les crédits, parce que M. Trump et M. Carney ne se sont pas encore parlé. Hein.
C'est vrai, c'est un excellent point.
Il n'y a pas encore eu de discussion, monsieur.
Et puis même, ça m'amène la sous-question, Marc-André, comment tu trouves le positionnement de Mark Carney qui dit « J'irai pas parler avec Donald Trump tant qu'on n'assurera pas la souveraineté du Canada ».
Ben, c'est sûr qu'à court terme, c'est sûr que ça peut fonctionner. T'sais, et du temps qu'on ne sera pas respecté, moi, je n'irai pas parler avec quelqu'un qui ne respecte pas le Canada, puis avec quelqu'un qui veut encore menacer, puis qui parle encore du 51e État. Cependant, les attentes envers M. Carney par rapport à, en bon québécois, dealer avec les États-Unis sont extrêmement hautes, ces attentes-là. Là. Mm-hmm. Quand on regarde les différents sondages, on dit, oh, oui, M. Carney, là, c'est la bonne personne pour discuter avec monsieur Trump.
Il y a le CV là, monsieur, pour...
Mais là, M. Carney, lui, il retarde ça, là. Fait que c'est une stratégie à double tranchant. Fait que si le 2 avril, les tarifs sont rendus le 2 mai, ben comment M. Carney peut en prendre des crédits à moins qu'il lui parle le 2 mai? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le 2 avril plutôt, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, leur première discussion serait la journée de l'imposition des tarifs. Fait, je comprends la stratégie de M. Carney. Cependant, elle peut être payante, mais également, elle peut être également très risquée là, à court-moyen terme.
Marc-André, est-ce que M. Poilievre doit absolument se détacher des comparaisons à Donald Trump?
Oui. On lui a posé la question à deux reprises hier lors de son point de presse de lancement. Il va falloir qu'il soit capable de le faire, mais tu sais, parce que j'écoutais les journalistes hier, disaient, ouais, mais là, ils reprochaient, tu sais, vous voulez des baisses d'impôts, puis M. Trump voulait des baisses d'impôts. Mais tu sais, ce point-là, je veux dire, mais c'est pas M. Trump qui a inventé des baisses d'impôts.
Ouais.
Je veux dire, à un moment donné, aussi. Mais c'est sûr que dans le style, dans sa façon d'être. Mais vous avez sans doute remarqué hier un Pierre Poilievre beaucoup plus souriant.
Oui.
Également, dans les derniers jours, il a baissé son ton. Et clairement, on sent là, que M. Poilievre le sait, que en politique, là, puis surtout en politique fédérale, là, les gens là, n'élisent pas un bon chef de l'opposition comme premier ministre. Mm-hmm. Ils élisent un premier ministre. Parce que dans l'histoire récente, là, Tom Mulcair au NPD était un excellent chef de l'opposition, mais il n'a jamais été premier ministre. Et c'est ça aussi la différence. Là, on connaît Pierre Poilievre, le gars avec un ton abrasif, un gars aussi à la période de questions qui est très incisif, également qui a fait la vie dure à Justin Trudeau, tellement la vie dure que M. Trudeau a quitté. Maintenant, c'est de voir est-ce qu'il peut s'adapter. Et là, on est dans un moment critique avec les États-Unis où on veut quelqu'un qui est capable de rassembler, travailler avec les autres et non pas un chef de l'opposition comme on l'a vu dans le passé avec M. Poilievre. Donc, est-ce qu'il est capable de faire ce pivot-là? Hier, on a vu un début de ça, et c'est ça la beauté d'une campagne électorale. Hein. Pour les 36 prochains jours, ces gens-là, ces chefs-là, vont être sous la loupe, et ça va être important de voir si tout le monde est capable de s'adapter avec la donne, et ce que la campagne va nous réserver de surprises au quotidien. Là.
Marc-André, dirais-tu que le Grand Toronto correspond à nos swing states ici au Canada? Parce que c'est vraiment là que l'élection va jouer, là, sauf erreur.
Oui, totalement. C'est là que ça va jouer. C'est une soixantaine de circonscriptions dans la grande région de Toronto. C'est pas pour rien que Pierre Poilievre était là hier soir, là, dans un comté, dans une forteresse libérale là, qui s'appelle North York. Là. Plus de 2000 personnes étaient là. C'est assez imposant comme rassemblement. C'était un bon choix. Là. Monsieur Poilievre était à Toronto hier, va être également dans la grande région de Toronto aujourd'hui, demain, et il va faire son premier rassemblement à Québec mercredi. Là. Donc, on voit là vraiment, là, mais c'est ça qui est intéressant. Là. Puis c'est pas banal, hein, les choix ou les chefs de parti vont. Là. Tout ça est décidé là, d'avance. Là, moi, je me rappelle en 2019 pour la campagne. La campagne a été déclenchée le 11 septembre en 2019, mais au mois de juillet, où on était dans une grande salle de conférence avec toutes les journées de campagne, puis jour 1, on va là, puis jour 2, on va là, puis jour 3, on va là, parce qu'on regarde des chiffres, on regarde ce qu'il faut aller. Tout ça, c'est pas du hasard. Fait que clairement, M. Poilievre le sait, son équipe, très important cette grande région-là, avec un contraste, moi, qui m'a surpris de voir M. Carney hier se diriger vers Terre-Neuve. Terre-Neuve-Labrador, c'est 7 circonscriptions sur 343. C'est un château fort pour les libéraux. Ils ont 6 comtés sur 7. Moi, ça m'a surpris d'aller là. En plus, il s'est ramassé avec des manifestants, là, des travailleurs dans le monde de la pêche. Les pêcheurs étaient vraiment pas contents, sont pas contents après certaines décisions du fédéral. Un peu surprenant là, de s'en aller tout de suite comme ça à St. John's, à Terre-Neuve. Mais clairement, Toronto va être super important. C'est là que ça va jouer. C'est sûr que c'est l'Ontario puis le Québec, hein, avec le nombre de circonscriptions que ces deux provinces-là représentent. Là.
Mais justement, pour le Québec, quelque chose qui va être intéressant à suivre, c'est ce qui va se passer avec le débat ou pas de débat du côté de TVA. Parce ouais. qu'on sait, on a demandé à chaque parti de donner 75 000 $ pour payer les frais de l'organisation d'un débat de ce genre-là. Le Bloc québécois a dit oui. Le Parti conservateur du Canada a dit oui également. J'ai pas vu d'autres mises à jour par rapport à tout ça, ce qui fait que, pour l'instant, le Parti libéral et Mark Carney n'auraient pas encore accepté. Est-ce qu'on craint que Mark Carney se fasse trop ramasser devant Yves-François Blanchet, devant Pierre Poilievre en français?
Oui, c'est une crainte. C'est une crainte et je pense que la crainte est très réelle et compréhensible. Sans doute, vous avez suivi ça hier. Très peu de français dans le discours de M. Carney, hein, quoi, 10-15%. Également dans la façon qu'il délivre ou qu'il parle en français, c'était très difficile hier. C'est clair que le format du face-à-face à TVA serait pas une partie plaisir pour M. Carney. Là. Surtout que là, présentement, on est en élection. Ça va être extrêmement difficile pour lui d'augmenter son niveau de français en pleine campagne. Là. C'est pas vrai que tu as le temps en pleine campagne électorale de prendre une heure de cours de français par jour. Là. Ça va tellement vite, t'as tellement de choses à préparer. Le déplacement, le voyagement, les rencontres, les rassemblements, la plateforme, les candidatures, tout ça. Moi, je l'entends depuis un petit bout dans les coulisses que M. Carney, là, vraiment, en bon Québécois, il trippe pas sur le face-à-face. C'est une formule qui est très différente que le débat du consortium. C'est une formule qui est très difficile, des échanges un à un. Vraiment, tu peux pas te cacher, tu peux pas jouer trop l'horloge quand tu as 5 minutes. Pensez-y, là, tu sais, 5 minutes, Mark Carney et François Blanchet, là. les stratèges du Parti libéral, ils le savent. Ça va être très intéressant de suivre ça dans les prochaines heures, de voir s'ils vont se faufiler et est-ce que M. Carney pourra en payer le prix, là. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu décides vraiment de ne pas te présenter sans doute au débat en français le plus important. Au Québec. Là.
Hey Marc-André, en terminant, la campagne électorale est lancée, t'es excité 12 sur 10. C'est un blitz plutôt qu'un ou un sprint plutôt qu'un marathon. Ouais. C'est à l'avantage de qui?
Ben, c'est sûr que pour M. Carney, on va essayer de jouer la trappe. On va essayer vraiment de jouer la trappe pour essayer de passer ça le plus rapidement possible. Moi, je m'attends à une campagne du côté libéral très contrôler un peu comme on a fait durant la chefferie. Mais c'est ce qui est intéressant d'une campagne, c'est que c'est vraiment, et on le sent, puis je voyais différents chiffres, là, il y a un intérêt pour cette campagne-là. Quand on compare le taux d'excitation, là, c'est Abacus Data qui ont sorti des chiffres au cours des dernières minutes. Par rapport à les gens, là, justement, les gens de 10 sur 10, là, ça a comme passé de 20 à 40 là, entre 2021 et 2025. Donc, une excitation. Il va y avoir des candidatures qui vont être annoncées. Ça aussi, ça fait, vous avez vu sans doute Hugo Langlois, là, chroniqueur tout ça, qui se lance pour les conservateurs dans Beauport, les Moyens, une bonne candidature pour les conservateurs pour se renouveler un peu leur base ici à Québec. Donc, tout ça vient agrémenter cette campagne-là et c'est ça qui est excitant des campagnes électorales, c'est qu'il y a plein de surprises, plein de choses qui vont arriver et quand on va se reparler à l'aube du vote ou après le vote, on va dire, il est arrivé telle affaire qu'on serait pas capable de prédire à l'heure actuelle.
Marc-André Leclerc est analyste politique à LCN et au Journal de Québec, ainsi que directeur principal au cabinet des relations publiques chez National. Marc-André, il y a quelque chose qui me dit qu'on va se parler régulièrement pendant
avec
cette campagne-là.
Avec grand plaisir.
OK. Au grand le plaisir est le nôtre.
Bon
merci.
Tout le monde.
Salut. Marc-André Leclerc, excité 12 sur 10? Ça m'excite encore un petit peu plus.
Ah, moi, c'est une élection historique pour moi avec toutes les tractations qui se passent à l'heure actuelle avec les États-Unis. Donc, il n'y a pas de doute que je vais suivre cette campagne électorale-là de façon assidue. C'est un vote très important. J'invite tout le monde à aller voter pour cette élection qui est capitale pour notre pays.
Quelle heure? 7h42, on fait une courte pause à Rage Against le matin. Ensuite, on a sorti bientôt Gravel. Il passe nous voir après la pause. On a l'annonce officielle à vous faire pour ce super concours qui s'en vient. J'en dis pas plus, mais vous allez capoter. Restez là. Rage.